Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre émission de musique sacrée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais écouter et commenter avec vous une œuvre d'une grande importance, la cantate 61 Nun komm de Jean-Sébastien Bach, une cantate du temps de l'Avent, donc bien dans l'air du temps, qui annonce la venue au monde du Christ, l'un des chefs-d'œuvre du maître de Leipzig. Alors avant de vous parler de cette pièce, à proprement parler, je voulais un petit peu vous parler du style cantate en lui-même. Alors je vous invite, si vous souhaitez approfondir le sujet, à lire l'excellent ouvrage du musicologue Gilles Cantagrel, sobrement intitulé « Les cantates de Bach », mais plein de très très belles choses. Alors la cantate en elle-même apparaît en Italie au XVIIe siècle, durant l'essor de l'art baroque, et c'est une œuvre chantée, comme son nom l'indique, et en cela, elle répond à la forme de sonate qui doit, elle, sonner, comme son nom l'indique, avec les instruments. Ce genre musical va avoir un immense succès en Allemagne à partir de la première moitié du XVIIIe siècle. Elle est même l'un des éléments fondamentaux de la liturgie protestante. Comptez 1300 cantates pour Telemann, 1425 pour Graupner et 2000 pour le champion Krieger. À côté, on peut presque se dire que les 300 cantates d'église de Bach font pâle figure. Mais il faut quand même savoir, ça c'est important, qu'une cantate n'est pas forcément un thème religieux. Chez Bach, qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, il a écrit sur des thèmes très profanes, notamment une qui est restée célèbre sur la boisson à la mode de l'époque, le café. Là aussi, si ça vous intéresse, je vous invite à la découvrir. Alors, si on revient à ces cantates religieuses, elles sont souvent basées sur des chorales, qui là aussi est un autre exercice de chant liturgique cher à nos amis allemands, et souvent les compositeurs prennent des thèmes composés parfois par Luther lui-même sur des sujets tirés de la Bible. Le chant en allemand est alors une véritable catéchèse. Et la composition de la cantate que nous allons écouter remonte à la première année où le musicien occupa à Weimar la charge de Concertmeister, et dans la charge de son emploi, il avait l'obligation de rendre une cantate par mois. Alors la page du titre de cette fameuse cantate porte la date de sa composition, c'est-à-dire 1714, et il a une appellation singulière, concerto. Alors ça vient presque vous contredire ce que je viens de vous dire, mais vous allez voir, effectivement, on est bien dans le style de la cantate. Alors au verso de cette page de garde est écrit le désormais célèbre aide-mémoire du compositeur, qui contenait tous les éléments de la liturgie afin de ne pas se perdre, et ce document, au-delà de l'anecdote, nous permet de comprendre aujourd'hui l'importance centrale faite à la musique dans la liturgie protestante de cette époque. Grâce à ce document, on voit que Bach renomme sa cantate en tant que musique principale exécutée entre la lecture de l'évangile et le credo comme une sorte de prolongation de la parole. Il choisit le thème de l'attente de la nativité qui est très riche en développement dramatique car la joie de la naissance se doit d'être seulement suggérée. C'est là toute la subtilité de cette musique de l'Avent. Le livret s'attache donc à une véritable mise en scène de la venue du Christ et cette cantate devient symptomatique des artifices vocaux dont usera Bach toute sa vie en confiant au pupitre des rôles bien précis, notamment la soprano qui incarne l'âme confiante et heureuse, comme dans le cinquième aria, le ténor, lui, l'espérance, avec le récitatif 2 et l'aria 3, et la basse, comme dans toute la musique de son temps, incarne la vox Christi, c'est-à-dire la voix du Christ, notamment dans le quatrième air. Alors l'entrée de cette cantate dans le style d'une ouverture à la française se veut de caractère royal pour proclamer la naissance du futur souverain du monde. Le chœur introductif énonce le dictum, ici ce sont les paroles d'un cantique, que le chœur va ensuite dérouler en faisant la catéchèse de l'œuvre. Bach va donc utiliser le choral de l'Avent « Nun komm der Heiden Island »« Viens donc, sauveur des gentils », lui-même traduction libre de l'hymne ambrosienne « Veni Redemptor Gentium » qui, là aussi, vient toujours s'insérer dans le temps de l'Avent. D'ailleurs, voici le thème de l'hymne. Et voici la réécriture de ce thème faite par Luther. Et c'est ce thème que va choisir Bach pour sa cantate. Il va légèrement la monter et il va également la déstructurer. Voilà le thème que vous allez entendre. « Là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement subtil, comme si nous avions finalement une forme de suggestion qui revient à faire ce que je vous disais, c'est-à-dire d'avoir cette joie qui est seulement suggérée. Alors, sans plus attendre, puisque l'introduction était un peu longue, faisons place à la musique et au premier chœur introductif de cette cantate au son si royal. Après l'appel solennel du chœur, Bach va changer radicalement d'échelle, et là, dans les deux mouvements qui vont suivre, le mouvement 2 qui est un récitatif du ténor, et le mouvement 3 qui est là un air du ténor, on va voir un changement donc d'échelle, car le récit va devenir bien plus personnel, presque intérieur. Le ténor annonce que le sauveur vient non pas dans l'éclat, mais dans l'humilité. Effectivement, c'est là tout le sens de la mangeoire. L'avant se précise ici comme un temps de préparation du chœur, plus que comme une attente spectaculaire. Et dans le troisième mouvement, dans cet air de ténor, l'attente se fait une prière insistante. Le rythme régulier, presque obstiné, traduit la persévérance de l'espérance. C'est la musique qui avance sans jamais se résoudre pleinement, comme suspendue vers ce qui doit encore venir. Donc je vous laisse découvrir en musique ces deux mouvements consacrés à cette voix du ténor qui invoque et évoque cette intériorité et cette attente si particulière au temps de l'Avent.
Der Heiland ist gekommen. Hat unser armes Fleisch und Blut an sich genommen und nimmt uns zu Blutsverwandten an. O allerhöchstes Gut, was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch dein Licht
Thank you.
et c'est avec beaucoup de douceur que se termine ce mouvement-là, et on enchaîne sans plus attendre avec le quatrième mouvement, là aussi un nouveau récitatif avec cette fameuse voix de basse, la Vox Christi. La parole change de source, c'est désormais le Christ lui-même qui s'exprime, et Bach va confier en fait ce texte à la basse, parce que c'est une tradition qui est bien établie, parce que musicalement tout est dépouillé. La venue du Christ n'est pas une irruption, mais une attente silencieuse à la porte du cœur. Donc c'est un petit peu comme si lui-même venait toquer à la porte, et vous allez l'entendre, cette façon de toquer à la porte s'entend par les cordes et ces pizzicati qui nous font presque voir comme si il venait gratter à notre porte et comme si on devait lui prêter cette fameuse attention. Et ensuite, on enchaîne avec un cinquième mouvement, un air de soprano qui là, après l'appel du Christ, vient comme si on avait une forme de réponse faite par l'âme elle-même. La soprano incarne une attente confiante, douce, sans véritable triomphalisme. Encore une fois, je rappelle que nous sommes dans le temps de l'Avent, c'est une joie qui est contenue. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans l'instrumentation de cette cantate, pas de tambour, pas de trompette, c'est certes une cantate qui est joyeuse, mais on n'a pas toute l'exubérance que peut la musique baroque. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement maîtrisé. C'est pour ça que le message reste, nous ne sommes pas encore à Noël, la joie est présente mais intérieure et retenue. Je vous invite donc maintenant à écouter ce fameux récitatif de basse et cet air de soprano absolument merveilleux là aussi.
Siehe, siehe, ich stehe vor dir zu. Und klopfe an, und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auf du, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Thank you.
Alors, chers auditeurs, avant d'entendre le dernier chœur de cet extraordinaire cantate, je vous apporte une petite précision sémantique mais également musicologique. Je vous ai employé à plusieurs reprises les mots récitatif et air qui sont employés par Bach. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux choses? Le récitatif est proche de la parole, il raconte, il explique, en fait il fait avancer le texte avec un accompagnement qui est très discret. L'air, quant à lui, est chanté, très mélodique et méditatif. Il laisse le temps à la voix de faire sentir l'émotion, de développer un sentiment ou une idée. Autrement dit, le récitatif raconte, l'air exprime. Voilà comment Bach construit note après note l'attention et la beauté de ses cantates. Et c'est un artifice qu'il a repris dans toutes ses autres cantates et jusque à ses célèbres passions. Donc naturellement, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête lorsqu'on écoute Jean-Sébastien Bach. Alors maintenant que nous avons écouté presque toute la cantate, eh bien, il nous reste le choral final, car la cantate s'achève sur un choral simple, presque dépouillé, et là aussi ça rejoint à cette idée de l'avant. L'attente n'est pas comblée, mais elle est assumée collectivement, et Bach conclut sans éclat, comme si l'avant reste ouvert, tourné vers quelque chose qui doit encore advenir. Néanmoins, la musique est absolument sublime. Faites-vous une idée par vous-même avec ce chœur final de la cantate Non Com. Et voilà, mesdames et messieurs, pour cette cantate BWV 61, Nun Com, l'un des tubes de Jean-Sébastien Bach, une cantate qui est restée dans la postérité, comme quoi, seulement avec un quart d'heure de musique, on peut faire de très grandes et très belles choses. C'est effectivement dans l'écoute de cette musique-là que l'on peut se dire qu'à l'époque, il y avait une véritable catéchèse, une véritable instrumentalisation au sens propre de la parole. En fait, il y a cette mise en musique, cette mise en marche qui résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles et qui montre le véritable pouvoir de la musique qui met en place et qui vient magnifier cette parole qui est absolument, bien entendu, prodigieuse. C'est là aussi l'un des grands défis de Jean-Sébastien Bach. Alors, sachez-le, il a écrit une deuxième cantate exactement sur le même sujet, la BWV 62. Donc, si vous voulez vous amuser à comparer les deux cantates, c'est naturellement possible. C'est même très intéressant de savoir comment Bach a traité le même sujet avec une musique assez différente. Vous pouvez l'entendre, c'est très intéressant et bien entendu musicalement passionnant. Mesdames et messieurs, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans la musique baroque de Jean-Sébastien Bach. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.